Bonjour Laurent Wolff.
Bonjour.
Pour cette deuxième rencontre, nous voici toujours à Paris, chez vous. On a commencé hier par définir un peu l'espace de votre appartement, entre autres. L'espace, puisqu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose de central dans votre vie et dans les choses qui vous préoccupent. Et il y a aussi autre chose de primordial dans votre existence, c'est peut-être l'objet, puisque vous êtes détenteur d'une thèse de doctorat sur le design industriel. Alors peut-être ça recouvre d'autres choses, mais juste avant de commencer et d'entrer dans ce deuxième chapitre, où on rencontrera le Laurent Wolff, étudiant, jeune adulte, quel serait l'objet de cet appartement qui vous paraît symbolique, emblématique de quelque chose qui vous touche particulièrement?
Je vais vous répondre tout à l'heure, mais je vais vous répondre tout à l'heure parce que l'avantage de changer de jour, c'est qu'on a le temps de réfléchir et j'ai un peu l'esprit d'escalier. Vous savez, l'esprit d'escalier, c'est pas parce qu'on a un esprit qui a la forme d'un escalier, c'est parce que c'est une idée qui vous vient quand vous êtes déjà dans l'escalier. Et alors, dans l'escalier, brusquement, il m'est venu à l'esprit que j'avais complètement oublié un épisode qui est constitutif de ma mentalité, je dirais pas et de tout ce qui m'a déterminé par la suite. Parce qu'on a l'impression finalement que j'étais un homme surdéterminé, très calibré, et que la géométrie de mon existence était faite de triangles et de carrés. Mais en réalité, il y a un événement qui m'a, même si ma famille n'était pas tout à fait aussi conformiste qu'elle en avait l'air, parce qu'elle avait l'air de l'extérieur assez absolument conforme à ce que doit être une famille dans les années 1950.
À la Chaux-de-Fonds.
À la Chaux-de-Fonds, absolument. Bon, à la Chaux-de-Fonds, parce que la Chaux-de-Fonds, c'est quand même un peu différent du reste de la Suisse. Mais il m'est arrivé un événement qui a été déterminant dans mon existence, dont je voudrais parler. Il m'est arrivé, je ne sais plus si c'était fin 1955 ou 1956, je pense que c'était en 56, j'avais donc à peu près 11-12 ans. Donc je fais partie d'une famille juive. À l'époque, on vivait quand même dans la hantise de ce qui s'était produit pendant la guerre, de la destruction des Juifs d'Europe. Et donc, il nous apparaissait de manière absolument évidente que l'État d'Israël était une nécessité, que c'était une question de survie pour les Juifs. Et à cette époque, il faut s'en souvenir, il n'était pas encore question véritablement d'assimilation totale. Même les Juifs les plus assimilés restaient des Juifs. Et c'est vrai pour les Juifs, mais c'était pas vrai que pour les Juifs. La notion de en être ou de ne pas en être était une notion extrêmement précise. Elle n'était pas vraiment contestée. Donc, tout était fait pour que on pense, pour les jeunes Juifs nés pendant la guerre, qu'Israël était une nécessité absolue. Et je le pense, et je le pense encore, hein. Attention, je le pense encore. Mais il s'est produit, à ce moment-là, un événement qui est resté dans ma tête et qui m'a traversé pendant toutes les périodes qui ont suivi. Il y avait donc, à la Chaux-de-Fonds, une association qui s'appelle la VISO, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'était une association sioniste dont ma mère a d'ailleurs été présidente. Elle était présidente de la VISO suisse, je crois, parmi ses innombrables actions citoyennes. Et donc la VISO, qui est une organisation sioniste juive, a organisé dans un cinéma qui s'appelait le Cinéma Ritz, qui n'existe plus, qui a été remplacé plus tard par un parking, cinéma qui avait une très belle architecture, j'ai jamais compris pourquoi il l'avait détruit, mais enfin bref, il a été détruit. La VISO avait organisé la projection d'un film qui s'appelle « La colline 24 ne répond plus ». Alors aujourd'hui, je peux dire que ce film, c'était « La colline 24 ne répond plus », mais j'ai cherché à retrouver ce film pendant plusieurs années, et j'arrivais pas à retrouver quel était ce film. Plusieurs années où je cherchais plutôt mollement, mais enfin je cherchais quand même, parce qu'il s'était produit l'événement suivant. Je me retrouve avec donc tous les membres de la communauté juive de la Chaux-de-Fonds, enfants, adultes compris, dans la salle du cinéma Ritz. Et dans cette salle, on lance ce film qui raconte la guerre israélo-palestinienne de 1948. Et ça raconte l'histoire, le destin de quelques soldats israéliens qui se battent pour conquérir une colline qui permet de contrôler la route de Tel Aviv à Jérusalem. C'est le premier film produit en Israël. À l'époque, Israël était un pays progressiste. C'était les travaillistes qui étaient au pouvoir. C'était le monde des kibboutz. C'était finalement l'utopie réalisée. Donc tout va bien. Et puis ce film est projeté. Et il se produit dans mon esprit une chose absolument incroyable dont je ne me suis jamais remis. Jamais je me suis remis de cette chose-là. Je vois ce film. J'étais censé m'identifier à ces jeunes Israéliens qui étaient partis à la conquête de la colline 24, qui affrontaient la mort, qui étaient des vrais héros, comme on les faisait dans les cinémas des années 50. Et j'ai ressenti une sorte de malaise parce que, je ne sais pas pourquoi, mon esprit s'est déplacé. Et j'y pensais que les Palestiniens, eux aussi, avaient des droits. Et ça, il est difficile de se rendre compte aujourd'hui à quel point une pensée pareille était subversive en 1956 pour un petit juif d'une famille juive dans la ville de La Chaux-de-Fonds. Et cette pensée est venue, et je me souviens très bien de ce moment absolument incroyable où j'étais totalement stupéfait. La salle, à la fin du film, se lève pour applaudir. Bon, moi, j'étais un petit enfant, j'avais pas de pouvoir, je me lève pour applaudir, et une partie de moi est restée assise. Et cette partie de moi qui est restée assise est toujours restée assise. J'adhérais sans adhérer.
C'est ça.
C'est-à-dire, j'avais en tête l'existence de deux points de vue légitimes. Et que le problème, c'était que ces deux points de vue étaient légitimes et qu'il fallait faire avec. Et ça, c'est une chose, c'est une découverte incroyable pour un petit garçon. À l'époque, évidemment, je le formulais pas. Et non seulement je le formulais pas, mais c'est ce sentiment que j'ai eu à cette époque-là, je n'en ai jamais, jamais parler à personne jusqu'à plus de 40 ans. J'étais habité par le sentiment qu'il m'était arrivé quelque chose que je ne pouvais pas raconter. Mais cette chose a été fondatrice pour moi, parce que l'idée qu'il existe deux points de vue légitimes est fondatrice à la fois dans mon rapport à la sociologie, à ma vie intellectuelle, mais c'est ça qui m'intéresse dans la peinture et dans l'histoire de l'art. C'est que toute œuvre d'art présente un point de vue et il existe plusieurs points de vue légitimes. Donc il faut faire avec. Comment on va faire? Et c'est ça qui m'a toujours préoccupé toute ma vie.
Vous êtes aussi un homme du déplacement, hein, à l'intérieur de cet espace de six points de vue. C'est ça qui est assez passionnant dans votre carrière.
Ben, c'est-à-dire que j'ai jamais perdu de vue l'idée qu'il existe plusieurs points de vue qui sont légitimes. Donc j'ai essayé d'occuper plusieurs places différentes. C'est aussi ça qui m'a fait arrêter la politique, parce que d'une certaine façon, faire de la politique, c'est essayer de faire triompher un point de vue. C'est aussi pour ça que j'aime la Suisse, parce que malgré tous les défauts que je trouve à ce pays, c'est un pays où quand même les institutions sont construites pour faire coexister les points de vue. Les Suisses pensent à juste titre que leur démocratie est exemplaire. Et beaucoup de gens dans le monde pensent que la démocratie suisse est exemplaire. Et tous ces gens pensent qu'elle est exemplaire parce qu'elle est bien organisée. Moi, je pense assez différemment. Je pense que ce qui est fascinant dans l'histoire suisse, à part sa structure politique, c'est l'idée qu'il faut faire coexister les points de vue. Mais il faut quand même se rappeler qu'il a fallu des siècles et des siècles pour rendre possible cette chose-là. Et ça n'est pas applicable au monde. En Suisse, il a fallu 700 ans, plus de 7 siècles, pour que cette construction, qui est une construction de l'esprit, s'impose, avec des gens qui essayent de détruire cette chose-là. Hein, en Suisse, on sait bien qui sont ceux qui ont tendance à détruire la culture du compromis. La Suisse, c'est la culture du compromis. Mais faire passer ça dans la réalité du monde extérieur, je pense que c'est tout simplement impossible, parce que le monde, c'est le chaos et la guerre.
Alors, sur ces mots assez massifs, hein, Laurent Wolff, je vous propose, peut-être qu'on allège un peu, mais pas forcément, pour revenir justement à cet endroit où nous sommes, dans cet appartement parisien, et où vous nous proposeriez un objet qui vous parle de vous, du monde, du chaos, de la guerre, je ne sais
voilà,
pas.
Ben oui, mais voilà. j'ai parlé un peu longtemps en réfléchissant à ce que j'allais vous répondre, parce que la question au départ, ben, je n'avais pas la réponse. Et puis là, maintenant, j'ai trouvé la réponse sur cette idée de la culture du compromis, parce que le compromis, il ne s'opère pas simplement entre des idées, entre des projets, il s'opère entre une chose que les Américains appellent culture, qui n'est pas du tout le mot culture tel qu'on l'emploie, les Anglo-Saxons appellent culture, qui n'est pas du tout le mot culture comme on l'emploie chez nous. Hein, c'est pas la culture cultiver. La culture, c'est l'ensemble des éléments qui constituent les savoirs et les pensées, les réactions des individus et des groupes sociaux. Alors, dans cette maison, il y a une chose qui n'est pas loin de la cuisine, très très particulière, qui réunit pas un objet, il y a plusieurs objets, il y a des petites statues, il y a des petits autels baroques faits en boîte d'allumettes que nous avons achetés, Leïla et moi, Leïla c'est mon épouse qui est brésilienne, qu'on a acheté à Salvador de Bahia, où il y a un musée des autels baroques, et dans ce musée des autels, il y a des petits autels en boîte d'allumettes en miniature, il y a donc ça, il y a deux ou trois sculptures de moi, il y a des tas de petits bouts de tissu. Il y a des élixirs magiques qu'on a achetés à Belém, qui est la ville qui est à l'embouchure de l'Amazone, toujours au Brésil. Il y a un élixir d'amour, Água do Amor, qui fait tomber amoureux toute personne qui entre en contact avec elle. Et puis il y a des petites statues qui sont les divinités de ce qu'on connaît aussi sous le nom de Candomblé, mais qui à Rio s'appelle Lumbanda. Lumbanda, c'est une version plus soft de la du Candomblé, où les cérémonies sont moins spectaculaires, mais enfin c'est pareil, hein, c'est une religion afro-brésilienne. Donc il y a toutes ces divinités, et il y a au milieu de cette chose qui s'appelle un gonga, la gonga c'est l'autel, hein, c'est l'endroit où on rassemble ces divinités, il y a une vierge qui est la vierge de Copacabana, et curieusement, cette vierge de Copacabana, qui est une vierge rose et bleue, comme souvent les vierges d'ailleurs, qui est debout sur un croissant de lune avec deux petites étoiles, qui est très reconnaissable dans la culture brésilienne, qui est donc le symbole de la Vierge Marie, mais en même temps qui est le symbole de Iemanjá, qui est la reine de la mer, hein, qui est la divinité de la mer dans le rituel umbandiste. Et donc un jour, j'étais seul à Rio, je rentre, il y a des magasins dans lesquels on peut acheter toutes sortes de petites statuaires chrétiennes et toutes sortes de petites statuaires afro-brésiliennes. Et puis, voilà, j'avise une petite sculpture, cette petite sculpture qui est une Vierge Marie, je la trouve jolie, et puis je la ramène à Paris, et puis je dis, voilà, on va la poser là. Et donc à cette époque-là, on avait une grande assiette avec, on a mis des pétales de rose et on a posé la Vierge Marie, donc l'Iemanjá, hein, c'est pas juste la Vierge Marie, et à cet endroit. Et puis ce gonga s'est progressivement développé, il a accueilli des sculptures des fétiches qu'avait ma belle-mère, qui était une femme de la classe moyenne brésilienne de Rio de Janeiro, qui ramenait des fétiches protecteurs pour les enfants. Elle cachait ça dans leur linge, etc. On trouvait ça. Il y avait à la fois l'éruption d'une culture chrétienne, qui est fondamentale pour moi, parce que moi je suis un amateur de peinture, et en peinture on est baigné dans la culture catholique, hein, faut quand même dire la vérité, on a beau dire, c'est scandaleux de dire que l'Europe est chrétienne, il se trouve quand même que tout notre système d'image
est drainé par ça.
Voilà, et c'est constitué,
bien sûr.
C'est bâti là-dessus. Donc moi, je suis pas du tout catholique, hein. Mais bref, voilà, il y a cette Vierge Marie qui est là, cette Vierge Marie qu'on voit dans toutes les peintures devant lesquelles je me suis arrêté pendant des années et des années. Et puis en même temps, cette Vierge, c'est en même temps autre chose. Et cette autre chose, c'est tout à fait fondamental, hein, cette espèce de décalage entre l'idée d'un monde construit par notre culture, puis du fait que tout d'un coup, notre propre culture se décale et se transforme dans l'intérieur. Puis l'idée aussi que on est à la fois raisonnable et déraisonnable. Et donc ce gonga, cette espèce de petit hôtel qui est en même temps une chose magique, satisfait tout à fait mon sens de...
Ce de compromis, comme vous disiez.
Oui, puis de plus d'être plusieurs choses à la fois.
Plusieurs points de vue.
D'être plusieurs choses. Oui, d'avoir soi-même plusieurs points de vue.
Si on revient à votre histoire un peu chronologiquement... Vous disiez dans le premier épisode que vous étiez sans doute un être, ben voilà, déterminé à augmenter encore votre famille de, je ne sais pas, quelques lettres de noblesse, avocat, notaire, peut-être grand chirurgien. Et c'est pas tout à fait la voie que vous allez prendre parce que vous allez suivre des études de sociologie. Or, ça aussi, si on se remet un peu en contexte, la sociologie dans les années 50-60, c'est pas de la sorcellerie, mais disons, c'est pas encore comment dirais-je, n'a pas encore tout à fait ses lettres de noblesse comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a presque une sorte d'automatisme. En fait, la sociologie, ça pose aucun problème. Comment vous vient ce goût pour la sociologie et comment vous l'annoncez à votre famille?
Alors déjà, je me suis inscrit d'abord en architecture à l'université. Quand j'ai commencé, j'ai voulu entrer à l'université. Puis la deuxième chose, donc ça, c'était quand même conforme à l'idée qu'on s'est... Ensuite, je me suis inscrit en droit. Alors ça, c'était encore conforme à l'idée. Alors un bel avocat qui défend des belles causes, ça, c'est parfait. Et puis, il m'est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup de gens de ma génération. On a été saisis par la conviction de l'inutile, par la vertu de l'inutile, par la vertu de la compréhension avant tout, de l'inefficacité. Il faut essayer de se remettre dans le contexte. Alors, pour moi, le début des années 60, c'est un double contexte. Le premier contexte, c'est le contexte familial. Alors ça, c'est quand même une chose très importante, parce que ce contexte familial m'a rendu disponible, m'a brutalisé d'une certaine façon, en 1963. J'ai passé mon baccalauréat, donc j'avais...
À Neuchâtel,
À La Chaux-de-Fonds.
À La Chaux-de-Fonds,
oui, à La Chaux-de-Fonds, j'ai passé mon baccalauréat. Et le jour où j'ai passé l'épreuve de français, donc je revenais de la salle d'examen, très content de moi. Enfin, j'étais un peu... j'avais tendance à être très content de moi, pour tout dire. voilà, je suis rentré à la maison. Et puis, pour raconter mes exploits littéraires. Et puis j'avise, je vois que la table est un peu bizarre, tout le monde a fait la gueule. Et puis mon père prend la parole et me dit, et nous dit, enfin me dit, parce que les autres le savaient déjà, « Laurent, il faut que je te dise, j'ai un cancer. » À l'époque, je peux vous dire que les cancers, c'était
la mort.
C'était le passeport pour l'au-delà. Donc le moment de mon bac a été un peu brutal. Et donc pendant plusieurs années, à partir de là, mon père est mort l'année suivante, en 64, j'ai vécu pris entre deux contraintes, ce qu'on appelle double contrainte en psychologie. L'une qui est de réaliser le rêve de mes parents. Ma mère est morte 4 ans plus tard, en 1968. Donc ça m'a guidé pendant plusieurs années, cette histoire-là. Mon rêve est le rêve d'autrui. Je pense que c'est fondamental dans la vie de la plupart des gens. Il n'y a rien d'original et d'héroïque là-dedans. On est à la fois son propre rêve et on est le rêve d'autrui. Et la chose qui est très curieuse, c'est qu'il est presque aussi important, le presque compte, de réaliser son rêve et de réaliser le rêve d'autrui. Et la plupart des gens font pas la différence entre leur rêve et le rêve d'autrui. Et donc moi, j'ai été pris dans cette histoire de mon rêve et du rêve d'autrui, du rêve de mes parents. Faire prospérer l'idéal qui n'était pas un idéal économique, parce qu'il y a des familles où c'est un idéal économique, tu reprends l'usine, mon fils, ou tu reprends la boucherie, mon fils, mais de reprendre la posture sociale, d'être un bon citoyen au service des autres. Et donc j'ai vécu à peu près, à partir de 1964, 5 ou 6 ans dans lesquels j'étais pris dans la cohue, dans la bousculade de ces deux rêves, être utile et être inutile.
Et qu'est-ce que ça donne finalement ?
Finalement, j'ai réalisé le rêve de l'inutile.
Vous avez parlé d'architecture, droit, puis alors la sociologie.
Oui, avec la sociologie, parce que qu'est-ce que ça représentait ? Parce que la sociologie est devenue à la mode dans les années qui ont suivi. Bon, moi, j'ai commencé la sociologie à l'automne 1963. Comme ça faisait un peu marginal de faire de la sociologie, je me suis aussi inscrit en licence d'économie.
Là, vous êtes à Genève ?
Là, je suis à l'université de Genève. Donc je faisais de la sociologie. Et beaucoup de gens qui ont fait de la sociologie sont simplement fait de la sociologie parce qu'ils voulaient comprendre. Ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui subodorait et qui ne comprenait pas. Alors là, de nouveau, je m'adresse à ceux qui n'ont pas vécu cette période. Il faut se rendre compte du bouleversement absolument inouï qui s'est produit entre 1958-59 et 1964-65. Un bouleversement qui a donné par la suite ce qu'on appelle mai 68. Mais le bouleversement, c'est pas 68. Le bouleversement, il est ailleurs. Tout d'un coup, on pouvait allumer deux lumières dans sa maison. Tout d'un coup, on avait le chauffage central. Tout d'un coup, on pouvait acheter des biens qui étaient préemballés chez l'épicier. Tout d'un coup, il y a eu des supermarchés. Tout d'un coup, il y a eu des plats cuisinés. Tout d'un coup, il y a eu des machines à laver. Et tout d'un coup, le rapport au monde et le rapport aux objets s'est complètement transformé. Il y a eu brusquement, pendant cette période, une sorte d'enrichissement collectif qui a permis à des couches sociales qui n'y auraient jamais accédé auparavant, d'accéder non pas à la richesse, mais d'accéder à un certain confort. Mais
absolument.
On parle toujours, par exemple, des congés payés du Front populaire, mais les congés payés du Front populaire, en réalité, ils se sont réalisés à la fin des années 50, au début des années 60. C'est l'irruption des grandes vacances à la mer. Auparavant, c'était pas le cas. Brusquement, la consommation s'est adressée à tout le monde. Il y a une consommation des jeunes. L'irruption de la jeunesse qui a donné mai 68, c'est d'abord « Salut les copains ». Les yéyés, c'est d'abord les chanteurs qui, en 61, 62, commencent à chanter pour les jeunes. C'est Rock Around the Clock dont je parlais hier, le rock'n'roll américain qui s'adresse à une nouvelle catégorie de consommateurs. C'est plus les mêmes. Donc, brusquement, la société change, mais d'une façon radicale. Et puis, les gens qui vivent à l'intérieur de ça se demandent ce qui se passe. Et les jeunes qui sont là, ils aimaient pas l'ordre dans lequel ils ont grandi, mais c'était l'ordre dans lequel ils avaient grandi. Et tout d'un coup, tout ça changeait, tout ça. explosait d'une façon absolument inimaginable. Hein. C'est-à-dire que les premiers concerts yéyé, toute cette consommation de la jeunesse, hein, de catégories qui n'avaient pas d'autonomie de consommation, brusquement, elle se trouve face à ça. Donc, mais quand même, on se rendait compte qu'on avait devant soi quelque chose d'absolument incompréhensible. Et la seule discipline qui proposait l'exploration d'un ailleurs inconnu, c'était la sociologie. À l'époque, on parlait pas encore d'anthropologie, comme on en a parlé plus tard. On voyageait très peu. Enfin, par exemple, c'est un truc extraordinaire. Les voyages, même dans les familles aisées, on voyageait très peu. On voyageait pas loin. On partait pas en avion en Amérique. On allait à Rimini. On allait éventuellement au bord de la Méditerranée, sur la Côte d'Azur. Mais on y allait une fois par an. Donc, le loin était loin. Le près était très près. Le loin était très loin. Mais il commençait à se rapprocher, à nous sauter à la figure. Bon, puis cette période aussi, c'est la période de la décolonisation. C'est-à-dire ce qui avait fait la richesse. On était de plus en plus riches, mais ce qui avait fait notre richesse s'arrachait finalement à l'Europe. Et donc, c'est la période de la guerre d'Algérie, des accords d'Évian. La Suisse a joué un rôle très important dans la signature des accords d'Évian, où tout était à comprendre. On s'intéressait pas autant à soi-même qu'on s'intéresse aujourd'hui à soi-même. On aimait jouir, on aimait le bonheur, on aimait le plaisir. On pensait que tout allait aller mieux. Il faut quand même se dire un truc absolument incroyable. Hein. C'est que moi, je suis né à la fin de la guerre. Et je n'ai pas connu la guerre jusqu'au début des années 90. Je parle de la guerre en Europe, évidemment. Mmh. Il y avait de la guerre partout. Hein. Mais j'ai vécu une vie absolument incroyable. Fin des années 50, les antibiotiques. Fin des années 40, je veux dire, les antibiotiques. Donc, toutes ces maladies qui menaçaient pouvaient être soignées, la tuberculose, etc. Les vaccins, la poliomyélite. Moi, j'ai connu dans l'école des enfants qui avaient eu la poliomyélite, éradiquer la poliomyélite. La guerre, pas de guerre. Il y avait la menace atomique, mais c'était finalement une fantaisie. Pour nous, on vivait quand même dans la paix. Donc la paix. Ensuite, les années 60, la contraception, le droit au sexe quand on voulait, comme on voulait. Hein, incroyable, pas de sida, le sida est arrivé plus tard, en 82. Cette société qui se donnait à nous pour qu'on en jouisse, en même temps on en doutait, et donc on s'est mis à la sociologie. On adorait ça, on était des pinailleurs, on essayait de trouver où ça n'allait pas. Quoi. Et puis en même temps, il y a une mutation qui est absolument sensationnelle, dont on n'a pas idée aujourd'hui, c'est la démocratisation des études.
Ouais.
Moi, quand j'ai fait mon bac, il y avait 17 bacheliers à la Chaux-de-Fonds. Mmh. 17 bacheliers en 1963. Dans ma classe, on était 17. On était, je pense, une trentaine à avoir fait le bac dans une ville de 40 000 habitants. Les gens passaient par d'autres filières. Les formations étaient courtes. On entrait dans le travail très tôt. Donc, toute cette transformation s'est produite à cette époque-là. Et donc, voilà, l'enfant qui était pris entre le rêve des autres et son propre rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le rêve des autres.
Et vous avez le vent en poupe. Et vous trichez un peu, oui, bien sûr.
Je triche un peu puisque je fais de la sociologie, mais je prends le rêve des autres et je commence à faire de la politique.
De la politique et aussi de la peinture.
À l'époque, pas du tout.
Pas du tout.
On n'en est pas du tout à la peinture. La peinture, ça vient beaucoup plus tard. J'ai commencé à peindre en 1970. Alors, reprenons les choses.
Oui.
À l'Université de Genève. L'Université de Genève, donc, c'est la grande crise de la démocratisation des études. Tout d'un coup, il y a besoin d'un personnel beaucoup plus qualifié, beaucoup mieux formé. Et donc, il faut ouvrir l'université. Il y a besoin de cadres pour encadrer ce développement économique qui va à toute vitesse. Les entreprises ont besoin de cadres supérieurs. Et donc, il faut ouvrir cette université. Il y a une croissance démographique qui est très forte, hein, dans l'après-guerre. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que, à la fois, pour de bonnes et pour de mauvaises raisons, il faut démocratiser les études. Et donc, moi, je suis rentré dans une université qui, elle aussi, s'interrogeait sur sa mission. Et qui était en train de se transformer. Il faut se dire que l'université de Genève, dans laquelle j'étais, avait un bâtiment central qui était rue de Candolle, près de la place de Plainpalais. Et ce bâtiment était le même depuis le début du XXe siècle. L'université n'avait pas d'autres locaux. Et que pendant que j'ai fait mes études, on a construit le premier nouveau local de l'université de Genève, qui est le bâtiment qui se situe à quelques pas, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, mais dont j'ai participé comme militant, syndical, étudiant, à la conception de ce bâtiment. Et ce bâtiment a été conçu en 1965-66. Il a été inauguré plus tard. J'avais déjà quitté Genève. Donc, tout le monde était face à ce problème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que l'université, jusque-là, formait exclusivement des élites, voilà qu'il faut qu'elle forme des cadres supérieurs et des dirigeants d'entreprise. Et donc, tout le monde était face à ce problème. Et tout le monde se demandait, alors, quelle université on veut ? Et donc, moi, je me suis retrouvé militant syndicaliste à l'Université de Genève. On avait un syndicat qui s'appelait l'Action syndicale universitaire. Et on se battait pour obtenir la majorité dans l'Association générale des étudiants de Genève. Et donc, on défendait une certaine idée de la mission de l'enseignement. Donc voilà, moi je suis entré en 64 à l'ASU, cette organisation syndicale. En 65, je me rendais compte que finalement il y avait des limites à ce travail syndical parce que les décisions étaient politiques, donc je me suis engagé politiquement. Voilà, je me suis engagé au Parti du Travail, sans croire du tout à la mission civilisationnelle de l'URSS. Je détestais l'URSS et les staliniens, mais enfin c'était une option réaliste. Et donc j'ai milité jusqu'en 67, pendant 3 ans, j'ai beaucoup milité, et on a conçu une idée qui était que puisque les richesses se répartissaient d'une certaine façon sur le plan économique, qu'il y avait des biens de plus en plus disponibles, une autre question se posait, elle se posait à la fois pour les étudiants, pour les futurs employés, cadres supérieurs, mais elle se posait pour toute la société, c'était à quoi sert le travail? Parce qu'on s'est posé la question tout de suite, collectivement et individuellement, de ce qu'était cette société de consommation dont on nous vendait les mérites et qu'on nous vendait en nous vendant des loisirs, des objets, etc. Et puis, on a douté de ça. Tout de suite, on était contre la société de consommation. C'était facile, hein, puisqu'on consommait à volonté. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on s'interrogeait sur la vie, c'est-à-dire le travail. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce travail? Est-ce qu'on allait devenir des exécutants, cadres supérieurs, des missions données par les propriétaires des entreprises? Comment on allait réaliser notre vie, notre bonheur? Est-ce qu'on pouvait trouver le bonheur dans le travail? Et on s'est mis à s'interroger sur ce que c'était que travailler. Ça m'a toujours fait rire de voir que la droite avait repris cette idée de la valeur travail, mais en réalité, c'est une idée marxiste, hein, l'idée du travail qui valorise l'existence humaine. Mmh. C'est une idée de Marx. Il la défend dès l'idéologie allemande, c'est-à-dire dès 1848. C'est dans le travail que se réalise la plénitude de l'être humain.
La bonne vie.
Oui, la bonne vie dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et donc, la question du travail, on était contre la société des loisirs, parce qu'on pensait, qu'est-ce que ça veut dire d'accepter un travail aliénant, un travail pénible, inintéressant, et ensuite d'aller compenser en allant faire le zozo sur une plage, en écoutant la musique yéyé. Et donc, on se disait, il faut trouver une solution pour se réaliser dans le travail. Et là, ça a construit un autre aspect fondamental de mon idée de l'art. Notre idée, c'était ce qu'on appelle, le mot un peu perdu de sens, l'autonomie. Mais l'autonomie au sens quasiment physique du terme. Être capable de produire de manière heureuse, sans dépendre de forces extérieures. C'est-à-dire produire, distribuer, être autonome financièrement. Et donc ça a déterminé le destin de beaucoup de gens. J'ai une amie qui a milité avec moi à l'époque à l'ASU. Ça a déterminé son existence. Elle s'appelle Marlys Pietri, elle a créé les éditions Zoé. Et au début, les éditions Zoé, contrairement à ce qu'on raconte, à la mythologie qui a été créée par la suite, c'est pas du tout un projet féministe. Le projet des éditions Zoé, au départ, c'est le projet de l'autonomie. On conçoit, on fabrique, on distribue, on est maître de sa production du début à la fin. Et là, évidemment, c'est essentiel pour un produit culturel. Alors, quel est le modèle de l'autonomie? Ben, c'est l'art. Voilà. C'est l'art. Et donc, moi, j'ai pas été conduit à l'art par une vocation. J'ai été conduit à l'art par la pensée politique. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux avoir une bonne vie, et la bonne vie, c'est celle dans laquelle on conçoit, on produit, on distribue. On ne dépend que de soi.
Je vous propose, Laurent Wolff, qu'on termine ce deuxième épisode sur cette profession de foi, pratiquement. Et nous allons écouter la pièce musicale que vous nous choisissez.
Ben, je vous propose un extrait d'un concert de Thelonious Monk à l'Olympia en 1961. Je vous propose ce concert. J'aurais pu vous proposer Monk solo, parce que pour moi, Thelonious Monk, c'est les variations Diabelli d'aujourd'hui. Donc, j'aurais pu proposer plutôt un solo. Là, il est avec un quartet. Mais je le propose parce que j'ai assisté à ce concert. J'avais 17 ans et ça a été un grand moment dans ma vie. Mais ça n'était pas un concert qui avait beaucoup de succès. Hein, Thelonious Monk, ça nous paraît maintenant une chose
évidente. Un monstre sacré,
évidemment. Un monstre sacré. Eh bien, d'abord, il y avait un concert à 18h et un concert à 21h. Moi, je suis arrivé à 17h. Pas de file d'attente, une salle à moitié vide. 18h15, personne. 18h30, personne. Et puis, 18h45, arrive Thelonious Monk, qui commence à jouer, et au bout de 25 minutes, il s'en va. Alors là, on a tous fait la gueule, et comme la salle était, il n'y avait qu'un tiers de salle, les organisateurs, donc de l'Olympia, a autorisé ceux qui étaient au premier concert à rester au deuxième concert, et le deuxième concert a été absolument mémorable.
À demain.
À demain. We'll be right back.